La suite dans les idées, Sylvain Bourmeau. Pourquoi ? Oui, pourquoi ? C'est la question qu'on se posera aujourd'hui à la suite dans les idées. Pourquoi quoi ? Pourquoi tout ? Pourquoi demander pourquoi pour commencer ? Et ces territoires du pourquoi, nous allons les parcourir en compagnie d'un philosophe, Philippe Huneman, qui est aujourd'hui l'invité de l'émission. Et ces territoires du pourquoi, nous continuerons de les arpenter dans la seconde partie de l'émission avec le romancier Vincent Message, qui a publié voici quelques mois Cora dans la spirale. Ce sera l'occasion de s'interroger aussi sur les liens entre ce pourquoi et la narrativité, la question de la causalité, de la spirale précisément dans le roman. Bonjour Philippe Huneman.
Bonjour.
Vous êtes philosophe des sciences, directeur de recherche au CNRS et vous publiez aux éditions Autrement Pourquoi ? Une question pour découvrir le monde. Alors, vaste question, peut-on se dire, mais c'est un livre extraordinairement précieux qui opère une clarification dont nous avons, je pense, particulièrement besoin dans une époque qui voit se multiplier les pourquoi, non pas ceux des enfants de 3-4 ans qui posent la question allègrement et ça leur permet de comprendre beaucoup de choses sur les bons pourquoi, ceux qu'on a le droit de poser. Mais je pense plutôt là au pourquoi qui s'insinue, qui s'instille dans le débat public et qui viennent remettre en cause parfois des évidences, des certitudes. Le doute, évidemment, est très précieux dans cet espace public critique, peut-être celui hérité des Lumières, mais le doute, à force de s'insinuer partout, vient aussi ébranler un certain nombre d'institutions, de manières de faire, et on voit des théories du complot, par exemple, poindre. Voilà l'un des enjeux auxquels vous vous attelez dans votre livre, mais ce n'est qu'un des enjeux. Mais j'avais envie de commencer par là, par cette actualité, au fond, du pourquoi, Philippe Huneman.
Oui, alors, effectivement, je pense qu'il y a un aspect quand on se met à réfléchir à la question pourquoi et qu'est-ce qu'elle signifie, est-ce qu'elle a plusieurs sens, est-ce que ces sens peuvent s'articuler ou pas, est-ce qu'il y a des bonnes et des mauvaises manières de demander pourquoi. Quand on se pose ce genre de questions, effectivement, on touche à des choses qui sont, quand on se demande la bonne et la mauvaise manière de se demander pourquoi, on touche à la question de savoir quand est-ce qu'il est raisonnable ou pas de poser la question. Et alors, ça fait penser évidemment, à quand je dis raisonnable ou pas, au doute raisonnable, hein, qui est un élément très important dans les contextes juridiques, puisque c'est ce qu'on demande en régime de droit anglo-saxon, c'est ce qu'on demande à des jurés d'appliquer comme critère de leur jugement sur la culpabilité ou pas de quelqu'un. Et c'est aussi si vous voulez, le pourquoi, c'est la question sur la raison des choses, et donc dans quelle mesure il est raisonnable de demander la raison ou pas. Donc on touche tout de suite à la question de est-ce qu'il y a des choses sans raison, est-ce qu'il y a des choses avec une raison mais qu'on trouvera jamais, etc. Alors dans un contexte beaucoup plus contemporain, effectivement, ce qu'on appelle les théories du complot, quelles que soient les réserves qu'on peut avoir par ailleurs sur cette notion qui est jamais très bien définie, c'est toujours une manière de ne pas se satisfaire des raisons qu'on vous donne d'un événement généralement tragique. Et ces raisons qu'on vous donne, on appelle ça la version officielle et on va mettre ça en doute. Alors, s'ensuit de la part des gens qui soutiennent des théories qu'on appelle théories du complot, une justification de type « nous appliquons la méthode scientifique » parce que les méthodes scientifiques, ça consiste à douter de ce qui est officiellement cru. Et puis, de l'autre côté, si vous voulez, vous allez avoir des gens qui disent, souvent avec raison, il est complètement déraisonnable, par exemple, de douter que, l'effondrement des tours du World Trade Center est dû à une organisation et un attentat terroriste. Alors, si on suit ce fil-là, on touche quelque chose qui m'a intéressé, moi, qui est le rapport entre les questions qu'on se pose, pourquoi, et puis les grands systèmes symboliques, culturels, disposer de réponses à cette question. Alors il y a beaucoup d'auteurs dans les gens qui travaillent sur les théories du complot qui soulignent que ces choses ont émergé. Alors généralement on dit ça explose à la Révolution française. Hein, c'est, il y a les premiers livres sur cette chose à la fois amusante et pas amusante du tout qu'est le complot des Illuminati. Ça a été publié juste après la Révolution française par l'abbé Barbel. Et les gens qui étudient ces choses-là s'accordent à dire que les théories du complot arrivent quand un ordre du monde est chamboulé. Typiquement la Révolution française, typiquement la Révolution russe, typiquement la chute du mur de Berlin. Et qui dit ordre du monde dit... On a un ensemble de réponses à pas mal de questions de type pourquoi, pourquoi on doit travailler, pourquoi on doit rester à la même place dans l'ordre social, pourquoi il y en a qui sont riches, il y en a qui sont pauvres, etc. Et quand ces réponses, pour une raison ou une autre, alors par exemple une révolution, ne sont plus disponibles, il y a toute une profusion de questions pourquoi. Et effectivement, dans notre période ouverte, on pourrait le dire avec la chute du mur de Berlin, la fin du monde soviétique, il n'y a plus cet ensemble de réponses qui étaient là, liées à l'affrontement du bloc communiste, du capitalisme, etc. Et donc oui, les gens vont avoir une profusion de demandes de pourquoi, certaines n'étant pas du tout rationnelles.
Alors, c'est juste un aspect... De ces pourquoi que vous étudiez. Je prenais l'expression territoire du pourquoi, c'est la vôtre. Et il y en a une autre qui est très utile. Vous essayez, au fond, de proposer ce que vous appelez une grammaire aussi des pourquoi. Vous êtes un philosophe des sciences, mais vous êtes très attentif au langage, héritier de cette tradition philosophique qui, j'allais dire, qui commence avec Wittgenstein, qui commence pas avec lui, mais disons, dont il a été l'un des contributeurs les plus importants, Philippe Hünemann.
Oui, absolument. Alors, en fait, comme tout travail de philosophie, on n'est jamais tout seul, hein, donc on est avec des gens avec qui on discute quotidiennement et on peut pas tous les remercier mais il y en a vraiment beaucoup et où qu'on lit et qu'on discute et puis on est avec des gens qui ont vécu il y a très longtemps et dont on est dépositaire à la fois du langage et des questions. Et donc territoire, c'est un mot qui en fait est d'Emmanuel Kant, hein, qui est dans ce qu'il appelle la critique de la raison pure et ce qu'il appelle le projet critique, qui est un projet sur en gros qu'est-ce que peut faire la raison et quelles sont ses limites. Et moi, très 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 modestement, évidemment, je m'inscris sur cet horizon-là. Qu'est-ce qu'on peut faire avec quand on demande une raison, quand on demande pourquoi et c'est quoi la limite. Et grammaire, c'est le mot effectivement qu'utilise Wittgenstein pour nommer en fait ces règles du langage, mais au sens où le langage jusqu'à un certain point contraint ou modèle la pensée. Et donc c'est des règles qui sont moins contraignantes que les règles de logique. Je peux pas par exemple penser que le jaune n'est pas jaune, ça c'est de la logique. Mais si je mélange du jaune avec du rouge, ça va faire de l'orange. C'est pas une nécessité logique, mais c'est quand même assez contraignant. C'est à ça que pense Wittgenstein, c'est lui aussi qui parle en termes de couleurs. Donc ici, moi, ce qui m'intéressait, c'était de montrer qu'il y a des règles sur demander une raison de quelque chose. Et en particulier, il y a des questions pourquoi qui sont d'un certain type, certaines d'un autre type, et elles passent pas l'une dans l'autre.
Alors, bénéficier d'une grammaire, essayer de faire apparaître cette grammaire, ça permet aussi de comprendre pourquoi... Certains pourquoi sont recevables et d'autres non. Pourquoi on fait des fautes de pourquoi, en quelque sorte?
Oui, absolument. C'est ça, quand vous arrivez à saisir la grammaire d'un mot ou d'une question ou d'une expression, vous, idéalement, vous arrivez aussi à comprendre ce qui va pas quand on l'applique à tort.
Et alors par exemple, pour donner un exemple, vous faites une philosophie pratique, c'est important à souligner. Un exemple de faute de pourquoi que vous citez assez rapidement dans le livre, c'est ce qu'un enfant peut demander quand il dit pourquoi on est tel jour de la semaine.
Oui, c'est... ou pourquoi le lundi est lundi, oui, pourquoi on est dimanche, ou bah, et c'est très difficile de répondre, en fait. Bah oui, on est dimanche parce qu'on est dimanche, enfin c'est, alors pour moi c'est quelque chose qui est si vous voulez qui est là, il y a pas de réponse. Ou pourquoi le blanc est blanc, ou ce genre de choses. Alors pourquoi le blanc est blanc, c'est que c'est par définition. Bon, donc il y a, si vous voulez, plus généralement, il y a un ensemble de choses qui sont, alors je dis des évidences, hein. Et ces évidences ont parfois à voir avec l'essence des choses, si vous voulez, au sens où, par exemple, un tigre a des rayures, ben c'est comme ça, ou un tigre est un félin, ben oui, c'est un tigre. Là où les choses se compliquent un petit peu, c'est que certaines de ces définitions sont totalement conventionnelles et on pourrait dire, bah oui, mais pourquoi la convention est donc remontée. Donc alors il y aurait certaines réponses qui seraient au fond des réponses sur pourquoi le langage est comme il est. Mais ça permet d'apercevoir une alternative ici que je tranche parfois en fait j'ai vraiment du mal à trancher entre une vision au fond totalement conventionnaliste, C'est-à-dire que les définitions, les essences des choses, tout ça, c'est juste des gens qui ont fixé le langage comme il a été fixé. Et puis une vision un peu moins conventionnaliste, où il y a des choses qui sont vraiment évidentes, où il n'y a peut-être pas une essence du tigre, il n'y a peut-être pas une essence de moi-même, mais en tout cas, voilà, en tout cas, il y a un moment où il n'y a pas vraiment de pourquoi.
Peut-être vous pourriez nous éclairer sur les différents types de pourquoi que vous distinguez, sachant que ces distinctions, on va y venir après, elles sont pas absolues et il y a des articulations complexes à penser entre ces différents pourquoi.
Oui, c'est ça. En gros, si vous voulez, je distingue. Et alors là, vraiment, c'est la tradition philosophique en fait. Hein, et les grands auteurs classiques, Descartes, Leibniz, Spinoza, c'était vraiment quelque chose qui les retenait beaucoup. Donc, j'en distingue à peu près trois. Pourquoi au sens où pourquoi la voiture démarre pas, et en général c'est parce que le carburateur est mort, c'est la cause du phénomène. Pourquoi au sens où quand vous dites je voterai jamais Trump, on va vous demander pourquoi, mais la réponse c'est des croyances, d'autres croyances que vous avez. Donc c'est la raison d'une croyance, c'est ce qu'on appelle généralement une justification. Et le troisième c'est le pourquoi au sens pourquoi t'as fait ça, et c'est autour de la raison d'agir que les gens peuvent avoir. Et alors c'est relativement différent parce que on peut pas si vous voulez, la raison d'agir c'est un but, donc on va dire j'ai pris mon parapluie pour me protéger de la pluie. La cause, ce qu'on appelle, et ce que les scientifiques appellent une cause quand ils recherchent une cause, c'est pas un but. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que le réchauffement climatique, par exemple, a lieu parce qu'il faut punir les humains de toutes leurs atrocités. Non, le réchauffement climatique a lieu en vertu d'actions intentionnelles ou non intentionnelles antécédentes dont c'est la conséquence. Donc, alors ça c'est une distinction importante aussi parce qu'il y a beaucoup de réponses fausses à des questions pourquoi qui sont la confusion entre la cause et le but. Ça a été très longuement discuté à la fois par la tradition philosophique. Je cite un passage assez connu de Spinoza où il dit les hommes pensent que tout est disposé pour eux et que tout a une fin alors que les choses arrivent en fonction de leur cause. Et en même temps, c'est aussi le principe de, alors en psychologie, un certain type de vision enfantine du monde que Piaget appelait l'animisme, dans les religions, le moteur d'un certain nombre de croyances, c'est d'essayer de trouver le but que Dieu avait en faisant telle et telle chose. Hein, voilà. Donc, c'est une confusion qui est quand même très importante et qu'on trouve encore maintenant, en fait, les gens qui cherchent à expliquer les choses en leur trouvant un but, et il est consensuel d'en penser que le début de la science moderne, donc des Galilée, Descartes au XVIIe siècle, c'est l'exclusion progressive de ce genre d'explication dans la science. On peut pas dire que, par exemple, la pierre tombe parce qu'elle a envie de tomber, c'est pas scientifique. Voilà. Elle tombe parce qu'elle est... Alors, dans la science moderne, elle est attirée par la Terre.
S'agissant des pierres, je pense que la question est réglée dans l'esprit de la plupart de ceux qui vivent aujourd'hui. Mais en revanche, c'est plus compliqué s'agissant de l'évolution des espèces, par exemple.
Oui, absolument. Oui, ça et c'est là où c'est intéressant, c'est que c'est très difficile d'expliquer, de faire de la biologie sans avoir un langage qui explique les choses par leur but. Vous allez dire le rein, la fonction du rein, c'est d'éliminer les toxines. Ça veut dire que les reins sont là pour éliminer les toxines. Et les premières questions que vous avez, si vous découvrez un animal qui
pourquoi par exemple, la girafe a
avoir trois bras, il a trois bras. Ou les paléontologues, pour prendre des vrais exemples, quand vous trouvez des fossiles, vous vous demandez toujours à quoi servait ce truc, cette espèce de corne bizarre ou de crête bizarre sur tel dinosaure. Et ça, c'est typiquement une question qui fait comme si le dinosaure était un agent intentionnel et qu'il avait un organe qui allait lui servir à quelque chose.
On a pu trouver l'équivalent avec le fonctionnalisme dans les sciences sociales. Aussi,
absolument. Dans les sciences sociales, il y a typiquement ce genre de questions. Alors, dans les sciences sociales, J'en parle très très peu, bon, dehors parce que je connais beaucoup moins. Mais c'est vrai que c'est la notion de fonction qui est impliquée. C'est-à-dire que ce discours qui est le discours des physiologiques, hein, la fonction du cœur, c'est de faire circuler le sang. Les philosophes se sont beaucoup demandé, mais comment on peut exclure ça? Parce que normalement, scientifiquement, maintenant qu'on est moderne, on explique sans faire référence à des buts. Alors, les philosophes anciens faisaient ça, par exemple Descartes, alors c'est très connu, hein, c'est la théorie, il dit les animaux sont comme des machines, donc au fond, le feu dans les animaux, c'est que c'est la chaleur dans les animaux, c'est comme le feu dans ma cheminée, et quand je dis le chien, il grogne parce qu'il est pas content, en fait c'est juste un état du monde qui déclenche tout un tas de réactions compliquées à l'intérieur du chien, c'est juste plus compliqué qu'une machine, mais le chien il veut rien, il a pas d'esprit, et pour Descartes il y avait un argument supplémentaire qui était, il a pas d'esprit parce qu'il a pas de on le sait parce qu'il a pas de langage. Mais il y a des philosophes beaucoup plus récents qui ont essayé de, si vous voulez, de remplacer tous les énoncés fonctionnels, du genre la fonction du cœur c'est de faire circuler le sang, par des énoncés où vous ne faites pas appel à des fonctions. Donc en particulier des énoncés causaux. Donc c'est une chaîne très compliquée de causes. Et en fait c'est très difficile. C'est très difficile. Donc il y a beaucoup de philosophes qui disent, bah non, finalement, on peut pas se passer des fonctions, mais c'est peut-être dû à nos limitations cognitives ou... Alors, il y a une stratégie qui est celle que je prends, bon, même si elle a des limites dont je parle pas trop, mais ça me semble quand même la ligne à suivre, qui est de faire référence à l'évolution par sélection naturelle. C'est-à-dire que ce qu'on dit, quand on dit la fonction du rein, c'est d'éliminer les toxines, en fait, c'est tout à fait légitime de le dire, on le dit parce que ça fait référence à l'histoire du rein. C'est quoi? Parce que bon, Darwin, comme on dit, a proposé une théorie qui est rien ne fait de sens en biologie si ce n'est à la lumière de l'évolution. Ça veut dire que quand vous voyez des organes qui ont des fonctions, ça veut dire en partie que quand vous voyez des organes qui ont des fonctions, ce sont le résultat de la sélection naturelle, c'est-à-dire que dans une population où il y avait des individus qui avaient des petites variantes de cet organe, des individus qui l'avaient pas du tout, etc., le fait d'avoir un début de cet organe donnait un avantage sélectif, donc on se reproduisait mieux, donc cet organe se diffusait dans la population, et puis génération après génération, il est devenu l'organe qu'on connaît. Et donc, ce qui veut dire philosophiquement que quand on dit la fonction du rein et d'éliminer les toxines, on parle en fait pas de but, même si ça a l'air de but, on parle de l'histoire des populations de vertébrés qui ont eu des reins, en tout cas des proto-reins, puis des reins, etc. Donc c'est un énoncé causal tout à fait légitime, donc qui est dans le cas de la science moderne, mais qui est un énoncé causal qui concerne l'histoire des populations de certaines espèces et pas l'humain que je vois en face de moi et dont j'examine le rein.
On est loin des usages de Darwin et du darwinisme social qu'on a entendu récemment par le directeur de l'institution. Oui. Vous êtes chercheur.
Oui, je suis chercheur. Il se trouve que je suis assez impliqué dans ces histoires-là comme beaucoup de mes collègues. Et effectivement, bon, le darwinisme social, c'est en gros l'idée qu'on ne devrait pas trop intervenir dans les sociétés parce que, si vous voulez, pour prendre les choses de manière plus générale possible, l'idée de Darwin, c'était que la sélection naturelle expliquait l'adaptation des organismes, ce que les Anglais appellent le design des organismes. Descartes, par exemple, il n'y avait pas de problème avec ça, il disait les animaux, c'est des machines. Bah, je peux dire que, par exemple, la fonction de la canine du chien, c'est de déchirer. Parce que, comme toute machine, elle a un fabricant qui est Dieu, et puis que Dieu l'a fait comme ça. Et Descartes avait par ailleurs une preuve de Dieu. Si vous n'adhérez plus à cette preuve de Dieu, comment vous faites pour expliquer que le chien a des canines dont la fonction est de déchirer? Réponse de Darwin, c'est la sélection naturelle. Et donc la sélection naturelle optimise tout. Moyennant certaines, bon, c'est plus compliqué que ça, mais c'est l'idée. Et le darwinisme social, c'est celui qui descend en fait pas de Darwin mais de Spencer et qui pense que la sélection naturelle va optimiser en gros le capital humain, comme on dirait maintenant. Et donc il faut la laisser faire. Si on la laisse pas faire, comme par exemple si on donne des lunettes aux myopes, si on soigne les malades, si on donne des allocations aux pauvres, eh ben c'est la sélection naturelle ne va pas atteindre la maximisation du capital humain et c'est affreux. Donc ce qu'il faut, c'est donc on a une politique de qu'on dirait maintenant ultra-libérale. Et la plupart des biologistes savent que c'est pas vrai, et même Darwin a plein, tout un tas de pages où il explique que c'est beaucoup plus compliqué que ça, parce qu'en fait, une des meilleures manières d'être sélectionné, de faire plus de descendants, c'est d'aider les autres. Vous avez un animal qui s'appelle le crapaud buffle, c'est assez amusant, le crapaud buffle, le mâle, donc le père, il peut ne pas avoir de descendants, mais il va passer un temps fou à s'occuper des bébés crapauds, des autres buffles. Alors on peut montrer qu'en fait, il s'en sort très bien comme ça, et ses gènes s'en sortent très bien comme ça, mais apparemment, effectivement, il aide tout le monde.
Alors, pour réfléchir à pourquoi vous parlez beaucoup de science, c'est l'un de vos domaines de recherche en philosophie, mais vous travaillez aussi sur le droit, Philippe Hulman, et là on voit des choses un peu différentes.
Oui, oui, absolument. Parce que ce qui m'intéressait, si vous voulez, c'était un peu de sortir des sciences que je connais, enfin de la philosophie des sciences que je connais un peu, et de voir le rapport entre donc cet usage, en gros l'explication, hein, les sciences demandent pourquoi, et c'est ce qu'on appelle une explication. Alors pourquoi pas au sens de but, hein, mais au sens généralement de cause, où ça peut être des explications un peu plus sophistiquées, mais c'est rarement de but, sauf en biologie sous les conditions que je viens de dire. Mais la question du droit, du procès, hein, c'est effectivement deux choses. C'est pourquoi celui qu'on accuse est coupable. C'est ça que c'est un juré doit répondre à ça. Et puis il y a une autre question qui est pourquoi il a fait ce qu'il a fait. Et moi, ce qui m'intéressait là-dedans aussi, c'était le rapport compliqué entre l'imputation causale, c'est-à-dire cette personne est la cause de ce qui s'est passé, et puis si vous voulez, les conséquences du jugement que moi je vais avoir quand je décide de juger cette personne coupable. Et alors c'est vraiment une question ouverte pour moi, c'est extrêmement compliqué, mais c'est en gros l'idée, c'est de dire, est-ce que vous allez appliquer le même critère de doute raisonnable à quelqu'un qui est coupable d'un truc pour lequel on va mettre en prison toute sa vie, et à quelqu'un qui est coupable d'avoir volé un autoradio. Vous allez sans doute demander plus de preuves pour mettre quelqu'un en prison pendant 20 ans. Et donc, ça veut dire que la croyance que quelqu'un a fait quelque chose va pas avoir le même type, en tout cas le même réquisite de justification dans les deux cas. Bah, c'est vraiment une question ouverte, hein, parce que si on accepte que les conséquences de mon jugement ont un effet sur mon jugement, ça veut dire qu'on accepte de lier en gros le purement théorique et la justification purement théorique sur les preuves matérielles et le pragmatique, c'est-à-dire les conditions de mes actions, les conséquences de mes actions. Bon, voilà. Donc dans le livre, je dis que on peut pas complètement les séparer, effectivement, à cause de cet exemple de différence de peine encourue. Mais l'un des gros livres importants des philosophes qui travaillent sur la causalité, hein, pour vous signaler l'importance de cette question juridique, c'est quelque chose qui s'appelait Causation in the Law, de Honoré Hart, je crois, c'est dans les fins des années 50, et c'est des juristes, hein, et c'est l'un des livres, quand vous travaillez philosophiquement sur la causalité, c'est vraiment une référence. Parce que les gens manient ça toute la journée, autant que les scientifiques, de qui a causé quoi, avant de pouvoir dire que quelqu'un est responsable, il faut trouver qu'est-ce qu'il a causé, s'il est cause de quelque chose. Et en fait, c'est là où les subtilités, au fond, les subtilités de l'argumentation scientifique, on les retrouve dans le cadre juridique ou de la vie courante. L'exemple très simple, puisque c'est l'exemple des assurances. Voilà, si vous faites cambrioler, vous allez dire, bah, j'étais cambriolé, la cause, c'est quelqu'un qui a forcé ma porte. Et un assureur peut vous dire, elle était comment votre porte? Vous aviez une porte blindée? Non, j'avais une porte standard et tout. Oui, mais alors, si vous avez une porte standard, c'est quand même un peu vous. C'est à cause de vous qu'il est rentré. Il serait pas rentré sinon, ce cambrioleur. Et donc là, vous avez, d'une part, vous touchez du doigt le fait que les questions pourquoi sur les causes sont des questions qui sont extrêmement débattues. Hein, je connaissais un doctorant qui travaillait sur les crashs d'avion. Il disait, il y a toujours, quand il y a des enquêtes sur les accidents d'avion, vous avez un conflit entre la compagnie et puis les pilotes. Et donc la compagnie pousse évidemment à ce qu'on mette le plus possible le poids causal sur le pilote. Les syndicats de pilotes poussent à ce qu'on trouve des truc qui déconnait dans l'appareil pour et donc la question pourquoi, elle est dans ce conflit d'intérêt, de force, entre soit en personne soit instance différente. Et dans mon exemple de la porte blindée, ça fait émerger aussi une autre chose, qui est que dans la vie sociale, on règle ça par des normes. C'est-à-dire, par exemple, si sur le contrat il écrit Z tenu d'avoir une porte blindée, on va dire vous étiez tenu d'avoir une porte blindée, et si c'est pas écrit, on peut dire c'est vraiment le cambrioleur la cause du vol. Et donc ça veut dire que dans la vie sociale, les questions sur le pourquoi, en fait, on peut les trancher parce qu'on a des normes qui sont plus ou moins conventionnelles, qui sont en général conventionnelles, mais qui peuvent être relativement justifiées. Donc c'est une spécificité, si vous voulez, de cet usage de la question pourquoi dans le monde social, à la différence de la science. Voilà.
Mais on voit bien que du coup, le mode de connaissance juridique, le mode de connaissance scientifique, à travers la manière dont cette question pourquoi est abordée, diffère.
Oui.
Ils peuvent se rejoindre parfois, mais diffère aussi.
Oui, et je pense qu'un des éléments de la différence, c'est, si on pense, vous savez, au film de procès, la spécialité américaine, un des éléments de la différence, c'est qu'il faut juger quand vous êtes. Quand vous êtes dans le domaine juridique, vous pouvez pas dire on verra plus tard. Hein. Allez, on va vous mettre en prison 2000 ans. Et en science, il faut pas. Vous n'êtes pas obligé de trouver la cause tout de suite. Ou de trouver l'explication tout de suite. Il y a des physiciens qui travaillent sur des choses depuis le début du XXe siècle. Ils n'ont pas trouvé. Alors, ça reste ouvert. Sauf qu'évidemment, il y a des raisons pour dire oui, mais sur des questions très précises comme les questions d'environnement, de crise écologique. Est-ce que vraiment on peut attendre avant de trouver, par exemple, la cause de tel effet qui contribue au réchauffement climatique? Est-ce qu'on peut attendre 100 ans? Peut-être pas, en fait. Donc, peut-être que si vous rapprochez l'horizon temporel, le juridique et le scientifique se rapprochent.
Mode de connaissance scientifique, mode de connaissance juridique, mais aussi mode de connaissance littéraire, comme on va voir dans la deuxième partie de l'émission. Ce sera après un extrait du nouvel album de Nicolas Godin.
La suite dans les idées, Sylvain Bourmeau.
Pourquoi ? C'est le titre du livre de Philippe Ullmann qui paraît aux éditions Autrement. On en parle avec l'auteur Philippe Ullmann, mais désormais aussi avec Vincent Message. Bonjour.
Bonjour.
Vincent Message, vous êtes romancier. Je le disais en commençant l'émission, vous avez publié il y a quelques mois aux éditions du Seuil Cora dans la spirale, troisième roman, c'est ça. Vous êtes par ailleurs professeur de littérature et vous avez aussi travaillé sur les romanciers pluralistes. Peut-être que ça nous aidera pour penser à un certain nombre des questions que je voudrais qu'on aborde. Philippe Ullmann a dévoilé en quelque sorte ce qui m'a fait imaginer ce dialogue en parlant des assurances, parce que Cora dans la spirale se situe dans cet univers assurantiel et je me suis dit qu'il y avait là un terrain que vous aviez choisi probablement pas tout à fait par hasard, pour penser quelque chose qui a à voir avec des formes de déterminisme sociaux et la manière dont on peut inventer un personnage et le faire évoluer dans un univers fictif, mais très très proche de ceux qu'on connaît au quotidien, Vincent Message.
Oui, alors c'est effectivement un roman qui tourne autour d'un grand pourquoi. Quelque chose vient briser la vie de cette femme le 8 juin 2012. Et le livre se structure comme une enquête menée des années plus tard par un journaliste pour savoir comment on en est venu là, d'un point de vue, un enchaînement de causes et d'effets. Et puis aussi, qui est responsable de ce qui s'est produit ce jour-là et qui a fait vraiment césure dans la vie de cette femme qui travaille dans une compagnie d'assurance en cours de restructuration lors de la crise économique. Donc, c'est vrai que la question du réseau de cause et d'effet est très présente dans le roman. Et puis, d'autre part, ça se finit par un procès. Et la question des responsabilités, directes et indirectes, est également centrale. Les responsabilités directes sont évidemment plus flagrantes et notre appareil judiciaire a plus de moyens pour les déterminer. Mais parfois, ça donne un sentiment d'injustice parce que les responsabilités indirectes, plus difficiles à démontrer, comptent plus. Alors dans ce livre, je ne l'ai pas situé par hasard dans le milieu des assurances. J'avais envie qu'on soit pris dans des tensions entre un métier qui, depuis le XVIIIe siècle, accumule la donnée et donc, au fond, ne sait pas forcément répondre à la question pourquoi, mais sait très bien prévoir ce qui va nous arriver, à quel moment nous risquons de divorcer, à quel moment nous allons mourir, voilà. Et puis, d'autre part, une aspiration moderne très forte à avoir le sentiment qu'on a un libre arbitre, que notre vie ne ressemble pas à celle de quelqu'un d'autre. Ce que Charles Taylor appelle l'idéal d'authenticité. Je veux une vie qui soit la mienne et pas celle du voisin. Et donc Cora est un personnage qui est vraiment pris dans ces contradictions-là. Elle cherche à se constituer une vie singulière tout en étant parfaitement consciente qu'elle est déterminée et elle est bien placée par son métier et donc ses déformations professionnelles pour le savoir.
Alors là, on voit bien ce que la littérature peut apporter à ça. Alors, en prenant directement comme objet, je dirais, littéraire, cette question, puisque c'est l'un des enjeux du roman de Vincent Message. Mais cette dimension narrative, vous la prenez en compte, Philippe Huneman, dans votre réflexion sur le pourquoi, et elle est évidemment le propre de la littérature, mais on la retrouve aussi dans le droit, dans la science. Et c'est là que ça se complique, parce qu'il y a ce mode de connaissance scientifique, ce mode de connaissance juridique, ce mode de connaissance narrative, si on peut dire, et les trois, en fait, sont distincts, mais s'imbriquent.
Oui, les trois s'imbriquent complètement et si vous voulez raconter une histoire, c'est toujours avancer des c'est toujours raconter une histoire compréhensible et pour que ce soit compréhensible, bah vous répondez implicitement à bah pourquoi machin a fait ça, pourquoi ce jour-là il n'y avait pas de train ou pourquoi
donc vous écrivez de temps en temps donc.
Oui, absolument. Vous écrivez donc, vous écrivez alors, vous écrivez. Et d'ailleurs, c'est là qu'on voit quand on pense à la narration, c'est là qu'on voit que s'il y avait aucun accès à la question pourquoi, c'était impossible de trouver des parce que, ça serait impossible de raconter une histoire, en fait. Ce serait une chose. Bon, donc c'est, alors, effectivement, philosophiquement, pouvoir demander pourquoi, c'est quelque chose de fondamental pour qu'il puisse y avoir des êtres rationnels. Mais au niveau de la narration, il y avait deux choses qui m'avaient retenu. Moi, la première, c'était, on fait jusqu'à un certain point toujours le pari que les gens sont rationnels. C'est-à-dire il y a quelque chose que les économistes savent bien et pas seulement. Hein, il y a quelque chose d'absolument fondamental dans le fait que les humains sont des êtres rationnels. C'est pas juste un constat empirique. C'est pas juste quelque chose où les gens vont dire ah oui les gens mais quand même ils sont complètement fous et d'autres gens qui vont dire mais non ils sont pas fous. C'est que si vous ne supposez pas que les gens sont tels que quand ils agissent en gros, ils agissent sur la base de leurs croyances de l'état du monde en vue de certains buts, alors vous pouvez absolument pas comprendre ce qu'ils font et vous prédire ce qu'ils vont faire. Donc ça, c'est une première chose. Et la seconde chose, je spéculais un petit peu sur ce que c'était que, en gros, la structure causale d'une narration. Et ce qui me... L'idée étant cette intuition que... Quand vous regardez un film, souvent vous vous dites « Ah tiens, c'est marrant, il rencontre la jeune femme et puis c'était celle qu'il avait dit, qu'il avait vue avant et il avait vu 3 jours avant. » Et c'est des fois, vous avez cette sensation de « Non, mais dans la vraie vie, c'est pas comme ça. » Et en fait, je pense que, si vous voulez, il y a quelque chose dans la narration qui est que vous excluez énormément de relations causales, des faits qui arrivent beaucoup plus tard, qui concernent plein d'autres personnes, etc. Et vous, c'est comme si vous saturez la narration de relations causales et ça la rend compréhensible.
La structure de cette narration, c'est une spirale précisément. Et la spirale, c'est celle du personnage ou c'est celle du récit, du roman en l'occurrence que vous écrivez, Vincent Message. C'est évidemment l'écho entre les deux.
C'est l'écho entre les deux. Et j'ai été très intéressé dans le livre de Philippe Hyneman par cette notion de saturation causale, qui fait que dans un récit, c'est vrai qu'on va exclure ce qui ne joue pas de rôle, puisqu'on construit souvent des récits comme des économies. Et donc, il y a cet exemple qu'il cite du fusil de Tchekhov. Tchekhov dit « s'il y a un fusil accroché sur scène à l'acte 1, il va jouer un rôle avant l'acte 5 ». Et donc, quand nos attentes vis-à-vis de la fiction ne sont pas nos attentes vis-à-vis du réel. Si on voit un film et qu'il y a un prisonnier qui est dans le couloir de la mort aux États-Unis, dans la réalité, les chances qu'il y passe et qu'il soit électrocuté ou qu'il se prenne une injection sont de 98%. Dans la fiction, il y a in extremis, il est très probable que quelque chose va le sauver, en particulier si c'est un personnage central et qu'on se doute bien qu'on va le retrouver à l'épisode suivant ou dans la deuxième moitié du film. Alors, les scénaristes peuvent jouer de ça aussi. Par exemple, les scénaristes de Game of Thrones ont fait leur réputation sur le fait que, alors qu'on s'attend à ce que les personnages survivent, leur vie puisse être interrompue d'une manière qui paraît complètement contingente, sans forcément qu'il y ait de signe annonciateur, etc. Et en écrivant Cora dans la spirale, moi, j'ai été pris dans ces réflexions-là. C'est-à-dire, il y a ces causes et ces effets qui appartiennent à l'intrigue, et puis il y a la nécessité proprement esthétique, qui fait que si je dispose des éléments, c'est pour qu'ils jouent un rôle plus tard. Donc, par exemple, dans cette histoire, la voiture et les moyens de transport en général jouent un rôle important. C'est un des milieux dans lesquels se développent les assurances, mais ça va aussi jouer un rôle dans le drame. Mais aussi l'envie de donner le sentiment de l'existence réelle. Et dans l'existence réelle, il y a de la contingence. Donc, c'est un exemple fameux de Barthes. Quand Flaubert suspend un baromètre au-dessus d'un piano dans tel de ses textes, ça peut aussi ne jouer aucun rôle, contrairement au fusil de Tchekhov. Ça peut être là pour dire, bah oui, cette personne vit dans un appartement, et dans cet appartement, il y a des objets, et on est là pour créer de l'atmosphère et dire, le récit mime le réel. Donc je crois que un récit est plus nécessaire que ne l'est la vie, mais il doit néanmoins faire sa part à la contingence.
Oui, absolument. Et je pense même d'ailleurs qu'il y a des choix narratifs qui vont avoir justement avec la manière dont on équilibre ces deux aspects-là. L'idée d'événement contingent qui est alors sous un certain angle ce qui aurait pu ne pas arriver qui peut être ce qui résiste à la question pourquoi, parce que quand vous demandez pourquoi quelque chose a lieu, vous demandez comment se fait-il, qu'est-ce qui fait que cette chose a dû arriver. Bon, alors si cette chose aurait pu ne pas arriver, peut-être qu'il n'y a pas de réponse à la question pourquoi. Et effectivement, dans votre livre, j'ai commencé à lire et puis je me suis dit, oui, au début, vous parlez de ce fondateur d'assurance qui a quelqu'un, de ses voisins, il y a une bombe qui tombe sur le toit et il se demande pourquoi c'est lui et pourquoi c'est... et effectivement c'est la question de départ qui au fond était déjà quelque chose, un exemple de Spinoza. Vous avez une tuile qui tombe sur quelqu'un et vous êtes à côté, vous vous demandez pourquoi c'est pas sur moi.
Vous c'est un arbre.
Moi c'est un arbre. Oui, moi c'était une anecdote vraie, enfin sans intérêt massif, mais effectivement. Et pour moi c'est typiquement le genre de question où on a envie d'avoir une réponse et on va l'avoir, on peut l'avoir, mais c'est absolument pas intéressant. C'est juste l'histoire de la vie du bonhomme et l'histoire de la physique de la tuile dans l'exemple de Spinoza. Mais on aimerait bien une autre réponse du genre c'était son destin de, par exemple. Pour moi la notion de destin est une notion qui a vraiment à voir avec ça. Et là voilà.
En tant que romancier, on est beaucoup interrogé, justement, quand on parle de ces textes, pour savoir pourquoi on a fait tel et tel choix. Et c'est très difficile aussi de répondre à la question. Et un texte qui m'a pas mal intéressé à cet égard, c'est La postille au nom de la rose d'Umberto Eco, où il commence par poser une vision qui est de l'ordre vraiment de la nécessité intime. Le nom de la rose, ça part de la vision d'un paysage de neige dans lequel il y a une grande jarre remplie de sang de cochon, et de cette jarre dépassent les jambes d'un moine. Ça... il peut pas forcément expliquer, ou il faudrait faire toute une séance de psychanalyse pour savoir pourquoi ça le fascine. Mais à partir de ce postulat, beaucoup de choses dans son récit se construisent de manière plus nécessaire par un mélange d'induction, de déduction, etc. S'il y a de la neige, si on saigne le cochon, c'est que c'est novembre. Pour qu'il y ait de la neige en novembre, il faut pas être en Italie du Sud ou en plaine. Donc, il va se dire, je situe ça en Italie du Nord et à une certaine altitude. Alors évidemment, là, on rejoint une nécessité intime puisque c'est la région dans laquelle il est né, dans laquelle il a grandi. Mais donc ensuite, petit à petit, les choses prennent forme dans un récit comme ça, un espace-temps, une succession causale, à partir de choses qui sont aussi de l'ordre de l'arbitraire. Donc, c'est un peu une réponse La marquise sortie à 5 heures de Valérie qui soulignait le grand arbitraire du roman. Bah, en fait, bien sûr, ce grand arbitraire existe. Mais une fois qu'il est posé, en revanche, là, les choses s'organisent de façon nettement plus nécessaire.
Mais alors, comment, quand on prend pour... on a comme ambition littéraire de raconter une trajectoire sociale, en l'occurrence, et donc de prendre en compte des déterminismes sociaux, pour parler comme les sociologues, comment fait-on littérairement pour ne pas écrire quelque chose de trop mécanique du point de vue des causalités, en étant pluraliste, pour reprendre ce mot que j'utilisais, sur lequel vous avez travaillé, en essayant non pas de mettre un fusil qui sert à rien, mais d'autres types d'indices, en multipliant les voix, les prises de parole?
Moi, c'est vraiment comme ça que j'ai essayé de structurer donc Cora dans la spirale. Le titre semble annoncer un programme, et de fait, c'est une descente aux enfers jusqu'à un drame. Mais en revanche, le chemin n'est pas du tout acquis. Le livre fonctionne vraiment par bifurcation, par virages inattendus, avec beaucoup de choses qui sont exogènes, c'est-à-dire qui viennent frapper Cora alors que ça n'appartient ni à sa vie d'entreprise, ni à sa vie privée. Par exemple, la rencontre... d'un migrant venu du Mali, on est en janvier 2012, les débuts de la guerre civile au Nord Mali, qu'elle rencontre par hasard Gare Saint-Lazare, va jouer un rôle déterminant dans la suite des événements. Donc je pense que on cherche à la fois à faire quelque chose d'un peu représentatif par rapport à une époque. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur le management et la souffrance au travail pour que la trajectoire de Cora ne soit pas incongrue ou excentrique. Mais en même temps, il est très important de marquer en quoi ce qui lui est arrivé aurait tout aussi bien pu ne pas lui arriver et appartient à un destin individuel.
Des structures de plausibilité en quelque sorte. Merci beaucoup Vincent Message. Cora dans la spirale, roman aux éditions du Seuil, et Pourquoi de Philippe Hünemann, un essai sous-titré Une question pour découvrir le monde, qui paraît aux éditions Autrement dans la collection Les Grands Mots. On trouve les références bibliographiques sur la page de la suite dans les idées, une page sur laquelle vous pouvez réécouter l'émission et vous abonner au podcast. C'était la suite dans les idées, Sylvain Bourmeau, attaché de production Marie Dalquier, à la technique aujourd'hui Bernard Laniel, à la réalisation Marie Placé. Et c'est Christine Bernard que vous retrouvez dans quelques instants sur l'antenne de France Culture.